This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacha. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir au Sénégal, en Iran et en Islande. Ce sera ailleurs dans le monde le journal de l'International de Michael Thébault. La revue de presse des correspondants de France Inter passe cette semaine par Washington et Berlin avec Frédéric Carbone et Cyril Sauvageau. Musique, et c'est une exclusivité, Mathieu Culeron a rencontré Tony Visconti, le producteur historique de David Bowie. À 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger, consacré ce soir au sauvetage d'un lac en Iran. Mais tout de suite, on va parler de démocratie.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
De démocratie à l'occidentale, cette démocratie qu'il s'agissait d'exporter, souvenez-vous, de l'Afghanistan ou de l'Irak en 2003, les néoconservateurs américains avaient des idées très claires sur le sujet, renverser un dictateur par la force, déployer une armée d'occupation, décréter la démocratie et rentrer chez vous. On connaît la suite, ça ne marche pas et le remède semble à certains bien pire que le mal. Bonsoir Florent Guénard.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'Université de Nantes, vous publiez aux éditions du Seuil la démocratie universelle, sous-titre « Philosophie d'un modèle politique ». Sur le papier, c'est quand même une belle idée de vouloir exporter la démocratie, non ?
Bah oui, c'est une belle idée. Mais il y a plein de belles idées qui ne marchent pas sous prétexte qu'elles seraient belles. Il faut encore vérifier leurs conditions d'application. Et c'est ça, c'est ce à quoi il faut, me semble-t-il, réfléchir.
Alors, comment expliquer que ça ne marche pas, l'exportation de la démocratie ?
Ça ne marche pas parce que, précisément, la démocratie, se démocratiser, c'est un processus endogène, qui suppose précisément un désir de liberté, une mise en œuvre de ce désir de liberté. La liberté, ça passe par une libération. Et cette libération, comme je le disais, elle vient de l'intérieur. Elle peut pas être exportée comme s'il suffisait d'offrir une marchandise dont les peuples s'empareraient. Mmh. Je pense que ça fonctionne pas sur ce mode-là. Et d'ailleurs, l'histoire le prouve. Mais ce qui est intéressant, c'est au fond, on sait que ça fonctionne pas, mais pourquoi alors on s'est mis à penser que ça fonctionnait? Et c'est ça, me semble-t-il, qui est intéressant. C'est-à-dire que pourquoi on s'est mis à le croire? Pourquoi on s'est mis à penser que la démocratie était nécessairement universelle? Mmh. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre.
Pourquoi?
Parce que ça tient à tout un tas de présupposés qui se sont, me semble-t-il, sédimentés dans l'histoire intellectuelle et dans les théories de la démocratie. J'ai été frappé de voir qu'on a souvent, avant, si j'ose dire, le XVIIIe siècle, on a souvent théorisé la démocratie, en la théorisait même comme modèle, sans pour autant en faire un modèle universel. Alors ce modèle pouvait être généralisable, mais sous condition. Ou alors il pouvait être singulier, c'est-à-dire que c'était un modèle parmi d'autres modèles qui étaient à choisir en fonction, ou qu'on pouvait appliquer en fonction des contextes historiques. Alors la réflexion que je me suis posée, mais à partir de quand avons-nous eu cette espèce de certitude d'un universalisme démocratique dans ce qui irait dans le sens de l'histoire? Et là, ce qui est assez, il y a deux césures qui m'ont paru assez intéressantes et qu'il fallait relever. La première, c'est la Déclaration des droits de l'homme, qui d'une certaine manière donne naissance à l'universalisme démocratique, mais sous un mode encore léger. Au fond, cette Déclaration des droits de l'homme, d'abord, elle produit pas une constitution, un modèle de constitution, simplement, et elle invite d'une certaine manière à être reprise par les nations. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est fait dans l'histoire de cette déclaration. Mais le deuxième moment qui est plus intéressant, c'est le moment du 19e siècle où on se met à penser qu'il y a une fin de l'histoire et que cette fin de l'histoire, alors on lui donne tout un tas de noms, hein, que ça peut être la civilisation, la modernité, etc., etc. Et la pensée libérale qui s'empare d'une certaine manière de ce télos de l'histoire va très vite aussi mettre dans ce télos un régime démocratique, institutionnel, représentatif. Et voilà, nous sommes embarqués d'une certaine manière vers une fin de l'histoire. Et cette fin de l'histoire, le XXe siècle ne l'a pas abandonnée. Il me semble qu'il a été même réactualisé dans la lutte contre le totalitarisme dans les années 80. Et c'est là où on retrouve ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'influence néoconservatrice.
Alors oui, c'est une autre césure, je pense, la chute du mur de Berlin. Là, on se dit, la démocratie va gagner le monde.
Mais voilà, mais bien sûr. Voilà, on trouve une confirmation ici d'une certaine manière d'une intuition fortement, une intuition occidentale fortement marquée qui est que nous maîtrisons d'une certaine manière, nous occidentaux, à travers ce régime représentatif, l'universel démocratique, et d'une certaine manière, la chute du mur nous prouve que nous avions raison de le penser, et ce, dès la fin du 19e siècle.
Mais est-ce qu'il s'agit nécessairement d'impérialisme à vouloir universaliser ainsi ce concept-là de la démocratie?
Ça dépend comment on l'universalise. Si on se contente simplement de dire il y a un modèle dont nous pensons qu'il est universel, mais à chaque nation de le reprendre à sa mode, alors très bien, là c'est une généralisation sous la figure d'un modèle, d'un paradigme à atteindre, une sorte d'idéal démocratique. Là très bien, là il n'y a rien à redire. Et au fond, la théorisation de la démocratie incite à faire cela. Bon. Mais s'il s'agit de défendre un modèle plan, un modèle constitution, en disant au fond, il n'y a de démocratie que sous la condition de cette invention occidentale qu'il faudrait au fond reprendre dans tous les endroits du monde qui aspirent à cette émancipation, alors là, je pense que, sans parler d'impérialisme au sens radical du terme, il y a une tendance à l'impérialisme.
Les néoconservateurs américains sont ceux qui sont allés le plus loin dans cette volonté alors clairement théorisée, mais mise en pratique d'exportation de la démocratie universelle.
Oui, je pense que je pense qu'ils sont allés le plus loin possible, et encore une fois pour de bonnes raisons, de bonnes raisons avec de mauvais effets, mais pour de bonnes raisons. Il faut aussi leur prêter de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'ils étaient fermement, et je crois qu'ils le sont encore, fermement attachés au poids de l'idéologie. Au bon sens du terme, c'est-à-dire ils sont persuadés qu'on peut au fond, en cultivant l'idée démocratique, en la répandant, en la diffusant, en la promouvant même par des moyens plus actifs, ils sont persuadés qu'au fond les peuples vont l'adopter. Donc il y a de bonnes raisons au fond, comme vous le disiez, après tout c'est une belle idée.
Mais oui, agréable de vivre en démocratie.
Mais oui, c'est agréable.
C'est mieux qu'en dictature.
On en est persuadés et nous aspirons d'une certaine manière à ce que ce modèle se répande. On est d'accord. Mais c'est une chose encore une fois d'aspirer à ce que ce modèle se répandre, autre chose que de le promouvoir, que de l'exporter avec des moyens beaucoup plus actifs, avec des moyens publics, quand c'est pas des moyens armés en plus. Voilà.
Est-ce que cette parenthèse-là, celle qui s'ouvre au moment de la chute du mur de Berlin, n'est pas refermée par les aventures désastreuses d'Afghanistan et d'Irak? Est-ce qu'on n'est pas dans un moment, disons, de rétractation précisément de cette démocratie? On n'a plus l'intention vraiment de l'exporter où que ce soit.
Mais je le pense. Je pense qu'effectivement nous sommes que cette parenthèse s'est refermée. Ne sous-estimons pas cependant la force de ces convictions-là, dont un certain nombre de universitaires, intellectuels aux États-Unis témoignent encore. Donc je pense que les leçons de l'histoire ne sont pas totalement entendues. Moi, j'ai été frappé de lire que certains néoconservateurs ont réagi de la manière suivante à l'échec en Afghanistan et en Irak. Au lieu de dire c'est l'échec de l'exportation de la démocratie, ils ont dit c'est l'échec d'une politique conduite par l'administration Bush qui n'a pas sincèrement, réellement voulu exporter la démocratie, mais qui est intervenue en Afghanistan et en Irak aussi pour de mauvaises raisons, des raisons de politique, de stratégie internationale, des raisons économiques, etc. Donc qui ont mis en doute non pas au fond le projet idéologique d'exporter la démocratie, mais la sincérité avec laquelle il avait pu être précisément appliqué. Donc là, ça m'a beaucoup intéressé de voir qu'il y avait cette conviction extrêmement profonde et qui est liée à un certain esprit occidental, à une certaine théorisation occidentale de la démocratie.
Américaine ou européenne?
Je pense qu'elle est les deux, c'est-à-dire qu'elle a d'abord été théorisée par les libéraux français au 19e siècle, comme je le disais. Elle a trouvé ensuite des relais d'une certaine manière outre-Atlantique, notamment parce que, on le disait tout à l'heure, un de ces relais, ça a été l'instrumentalisation de l'idée démocratique, si j'ose dire, pendant la guerre froide.
Comment avez-vous regardé Florent Guénard, en tant que philosophe travaillant sur la démocratie universelle, le vaste mouvement surnommé Printemps arabe?
Évidemment, ça m'a beaucoup intéressé. J'y consacre un certain nombre de pages dans le livre. Il m'a semblé qu'il fallait Paulet, alors il faut le regarder doublement. Il faut d'abord le regarder les espoirs qu'il a suscités et évidemment les échecs aussi, du coup, les désillusions qu'il a produits. Mais ce qui m'a intéressé, c'est au fond de lire ce printemps arabe du côté, en se plaçant du côté de la motivation des acteurs. Qu'est-ce que, au fond, ceux qui revendiquent la démocratie ont à nous dire sur la démocratie ? On s'interroge tout le temps sur la démocratie. La nôtre vieille démocratie qui est très usée, on ne sait pas comment la renouveler, il y a des insatisfactions démocratiques qui se manifestent perpétuellement et à juste titre. Bon, d'où les problèmes de définition innombrables. Bon, mais très bien. Mais alors, passons d'une certaine manière de l'autre côté. Écoutons le discours de ceux qui revendiquent le discours sur la démocratie, de ceux qui appellent la démocratie. Et comment est-ce qu'ils la construisent ? Est-ce qu'ils réclament simplement le droit d'aller voter de temps en temps à des élections auxquelles on finit par ne plus croire ? Voyez l'abstention dans nos États. Non, ils réclamaient bien autre chose. Et ça m'a beaucoup intéressé, ce phénomène m'a beaucoup intéressé en Tunisie, dont on peut penser d'ailleurs que la révolution démocratique est en marche. Hein ? Bon, sans être prophète, pour l'instant ça fonctionne. Or, ce qu'ils réclament et ce qu'ils mettent derrière l'idée démocratique, c'est l'idée d'égalité, c'est l'idée de justice sociale, c'est l'idée, comme ils le disaient d'ailleurs, hein, c'était un des slogans, l'idée de dignité. Bon, or, il y a là une définition substantielle, riche de la démocratie, et non pas simplement une définition institutionnelle de la démocratie. Et si on commençait d'une certaine manière par envisager la démocratisation à partir de cette définition riche de la démocratie ? Au fond, je me pose toujours la question de savoir ce qui rend la démocratie désirable. C'est une belle idée, comme on le disait, d'accord. Mais pourquoi c'est une si belle idée ? Bon, après tout, voilà, on pourrait très bien considérer qu'on serait mieux gouverné par des despotes éclairés, qu'il y aurait une sorte de science infuse qui éviterait, au fond, un certain nombre d'égarements de nos gouvernements, etc., etc. Bon, donc, si c'est une belle idée, il faut essayer de comprendre pourquoi on la désire, cette démocratie. On est d'accord ?
Et pourquoi on la désire ?
Il me semble que les Tunisiens nous l'ont dit. On la désire parce que est liée à la démocratie, il me semble que la démocratie, c'est le langage politique de la justice sociale. Voilà, c'est le langage politique de la justice sociale. C'est la forme politique que prend la justice sociale. Et nous aurions intérêt à ne pas oublier précisément la motivation de ceux qui aspirent à la démocratie et qui aspirent d'une certaine manière à rejoindre ce grand mouvement universel d'émancipation qui a ses espoirs et qui a aussi, comme on le disait tout à l'heure, ce moment de désillusion.
Merci Florent Guénard, philosophe, maître de conférences à l'Université de Nantes. Vous publiez donc au Seuil « La démocratie universelle » sous titre « Philosophie d'un modèle politique ». C'est un livre passionnant. Merci beaucoup d'être passé ici en studio à France Inter. À suivre dans quelques instants, la revue de presse des correspondants.
Move
by yourself. 18h32 sur Inter.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Washington, Frédéric Arbonne, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous.
La revue de presse avant de filer à Berlin, direction Washington. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas.
Alors la presse chez vous, Frédéric, se demande si l'après-débat n'est pas pire que le débat pour Donald Trump.
Oui, autrement formulé par le journal New York Magazine, la question c'est est-ce que Donald Trump n'est pas tombé dans le même piège qu'après la convention démocrate, quand, vous vous en souvenez, ça n'était pris à la famille d'un soldat musulman tombé en Irak et qu'il avait vertement critiqué. Là, c'est l'histoire de la Miss Univers d'origine vénézuélienne dont Hillary Clinton a rappelé pendant le débat que Donald Trump, organisateur de l'événement, l'avait insulté quelques mois après son titre parce qu'elle avait grossi. Et le lendemain, donc, au lieu de passer à autre chose, le candidat républicain en rajoute et dit chez ses amis de Fox News qu'Alicia Machado avait vraiment trop pris de kilos et que c'était un vrai problème. Résultat, c'est le sujet numéro un de tous les médias hispaniques aux États-Unis. Le Washington Post explique que les démocrates ont choisi de mettre en avant ce cas précis pour mobiliser justement cet électorat et le journal considère qu'il s'agit de la stratégie la plus habile de l'équipe Clinton depuis le début de la campagne. L'avantage en effet, c'est que vous avez les couvertures de la presse d'information classique, mais aussi celle des journaux People. Et People Magazine justement, titre à la une, Donald Trump continue de s'en prendre à une ancienne Miss Univers qu'il avait déjà traitée de Miss Peggy.
Oui, c'est élégant. Le New York Times, je crois, Frédéric, se penche sur le vote féminin.
Oui, parce que c'est une vraie interrogation pour Donald Trump, ce vote. Tous les sondages le disent. La catégorie dans laquelle il perd le plus de voix, Trump, par rapport à Mitt Romney, ce sont les femmes blanches, classe moyenne supérieure et vivant en banlieue des grandes villes. Donc il est allé, le New York Times, suivre le débat au plus près de cet électorat clé pour les deux candidats, en étant en Pennsylvanie, dans la ville de Westchester, que des républicaines interrogées, et un son de cloche presque unanime que résume Nancy Grew dans sa boutique de vêtements. « Je voudrais sincèrement l'apprécier, je cherche quelque chose en lui, mais je ne peux pas arriver à le respecter. Il ne m'est pas paru professionnel, dit une autre. Certaines voteront Hillary Clinton, beaucoup n'iront pas voter car elles n'aiment pas du tout non plus la démocrate. Et une ira mettre un bulletin de Trump. Moi, ça ne me gêne pas qu'il ait interrompu régulièrement son adversaire. Les enfants le font tout le temps quand ils veulent dire quelque chose. Ça fait une voix pour Trump, je ne sais pas si ça fait un compliment.
À la une, Frédéric, pour terminer, de Time Magazine, le grand retour de la politique dans le sport américain.
Oui, en mettant à sa une le genou à terre devant le drapeau américain de Colin Kaepernick, le geste de protestation contre les injustices dont sont victimes les Noirs de la part du quarterback de l'équipe de football de San Francisco, Time raconte à quel point ça se propage dans tous les sports et à tous les niveaux, professionnels, universitaires, au lycée, et il donne l'exemple de la ville de Camden dans le New Jersey où là, c'est l'entraîneur de l'équipe du lycée qui a proposé de faire ça, tous les joueurs sont deux l'ont suivi. Pour Time Magazine, l'activisme fait ainsi son retour dans le sport après des décennies, écrit le journal, pendant lesquelles les athlètes, conseillés par leurs agents, ont soigneusement évité toute controverse. Génération Kaepernick, donc après la génération Michael Jordan, beaucoup plus sage. Et le modèle, bien sûr, c'est le point ganté de Tommy Smith et John Carlos aux Jeux Olympiques de Mexico en 68. Ils ont ensuite été bannis et Nicolas, ils sont réhabilités symboliquement en ce moment puisqu'ils sont reçus à la Maison Blanche par Barack Obama avec l'équipe olympique de 2016.
Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci et bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Berlin. À la une chez vous, Cyril, l'histoire de cette jeune journaliste allemande, otage en Syrie. Elle vient d'être libérée avec son bébé qui est né en captivité.
Oui, la jeune femme et son enfant se trouvent en Turquie. Ils devraient être de retour en Allemagne d'ici quelques jours. Alors, on sait très peu de choses sur ce qu'a vécu la jeune journaliste depuis son enlèvement il y a un an. Même son identité est longtemps restée secrète. Selon le magazine Focus, elle s'appelle Janina Findenshain. Elle a 27 ans. Elle travaille comme pigiste pour la Süddeutsche Zeitung et la radio publique NDR. La jeune femme avait disparu en octobre dernier alors qu'elle se trouvait depuis peu en reportage en Syrie sur des infos fournies par un contact à Düsseldorf. Elle était enceinte à l'époque. Elle a donc donné naissance à son enfant en décembre pendant sa captivité. Qui sont ses ravisseurs? Là aussi, très peu de détails. Selon plusieurs médias, un groupe djihadiste du front Al-Nosra affirme avoir libéré l'otage et son bébé. Toujours selon l'hebdomadaire Focus, les ravisseurs réclamaient 5 millions d'euros. On ne sait pas si la rançon a été versée. En tout cas, l'annonce de cette libération est accueillie évidemment avec beaucoup de soulagement en Allemagne où l'on craignait le pire pour la journaliste. Pour le bureau allemand de Reporters sans frontières, cette affaire illustre bien les risques risques incalculables auxquels sont confrontés les journalistes qui tentent de couvrir la guerre en Syrie.
Changement de registre avec la question, Cyril, qui agite en ce moment les milieux financiers. La Deutsche Bank, la première banque d'Allemagne, est-elle sur le point de s'effondrer?
Et certains prédisent déjà un scénario à la Lehman Brothers, la Deutsche Bank plombée par l'affaire des subprimes. La justice américaine lui réclame 14 milliards de dollars d'amende. La Deutsche Bank, donc, jadis fleuron du système bancaire allemand, pourrait chuter et entraîner toute la planète finance avec elle. C'est en tout cas ce qu'on peut lire ces jours-ci un peu partout, notamment dans la presse française. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le son de cloche en Allemagne n'est pas du tout le même. Ici, personne ne croit vraiment sérieusement à l'hypothèse d'une faillite. Tout à l'heure, par exemple, l'économiste Marcel Fratscher, patron de l'Institut DIV, écrivait sur les réseaux sociaux « Prenez garde à tous ces articles alarmistes, c'est faux et contre-productif. » Pour le Frankfurter Allgemeine, quotidien économique de référence, il n'y a aucun doute, les autorités allemandes ne laisseront pas tomber la Deutsche Bank en cas de besoin. C'est également ce qu'affirme l'hebdomadaire Die Zeit, qui révélait hier qu'un plan de sauvetage est bel et bien en préparation à Berlin, malgré les démentis du gouvernement et de la direction de la banque.
Et pour finir, Cyril, du mouvement dans l'univers des start-up musicales à Berlin.
Le champion local, la plateforme SoundCloud, pourrait être rachetée par le géant du streaming, le suédois Spotify. Ça ne vient pas de la presse allemande, c'est le Financial Times qui évoquait ce matin des discussions avancées. Le deal est dans l'air depuis plusieurs mois. Rien n'est encore fait, mais l'affaire fait beaucoup parler ici en Allemagne, où SoundCloud est considéré comme le joyau des start-up berlinoises. Le site revendique 200 millions d'abonnés. Il présente la particularité d'offrir une plateforme à beaucoup de jeunes artistes non signés. Pour le journal économique Handelsblatt, ce rachat serait le bon moyen pour Spotify de se renforcer face à la concurrence d'Apple et Google qui ont décidé de se lancer pour de bon dans la guerre du streaming.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin, merci.
24 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, Michael, direction le Sénégal à la rencontre de ceux qu'on appelle les enfants fantômes.
Oui, fantômes ou invisibles, hein, deux mots pour désigner une même réalité. Ces enfants sans état civil, c'est-à-dire n'ayant pas été déclarés à la naissance. Et les derniers chiffres de l'UNICEF sont impressionnants. Près de 230 millions d'enfants de moins de 5 ans vivent aujourd'hui dans le monde sans aucune existence légale. L'Asie du Sud-Est et l'Afrique subsaharienne sont les zones les plus touchées. Et l'Afrique de l'Ouest aussi, notamment le Sénégal. Bonsoir Amélie Tulé, en direct de Dakar.
Bonsoir Mickaël.
Alors là encore, hein, les chiffres donnent le vertige. On compte au moins 538 000 enfants fantômes aujourd'hui au Sénégal, soit un petit Sénégalais sur quatre qui n'est pas enregistré à l'état civil. Et pour bien comprendre le phénomène, vous êtes allée à Pikine, Amélie, dans la banlieue de Dakar.
Oui, nous sommes dans un quartier pauvre de Pékin. Dans cette maison vivent quatre familles. Radi Diallo a trois enfants. Pour ses jumeaux, elle a fait les démarches auprès de l'état civil, mais pas pour son dernier fils.
Celui-là n'a pas de papier. Quand il est venu au monde, j'étais malade, épuisée. Et le papa était trop occupé par son travail. Et puis il n'y connaît rien. Il m'a dit, c'est à toi de le faire.
Dans la pièce à côté, Awa Thiam passe de la crème sur le corps de sa petite dernière avant de l'habiller. Ses deux filles sont enregistrées, mais pas ses deux premiers garçons. Elle les a eus jeunes, elle venait à peine d'arriver en ville. Deux naissances dans la même année, c'était trop, elle était dépassée.
J'ai été souffrante après les deux accouchements et j'ai laissé à chaque fois passer le délai pour les papiers. Mon mari travaillait et je n'avais vraiment personne pour m'aider. Aujourd'hui, pour l'école, c'est un vrai problème.
Un problème pour l'inscription, évidemment. Alors souvent, l'école publique accepte les enfants du CP au CM2, même sans papier. Mais après, sans acte de naissance, tout s'arrête. Car pour passer l'examen d'entrée au collège, une pièce d'état civil est obligatoire.
Et d'où bien sûr aussi un risque de déscolarisation. Mais comment faire, Amélie, et le peut-on pour tenter de rattraper la situation?
Alors si la première année de l'enfant est passée, les parents peuvent aller au tribunal pour un jugement d'inscription à l'état civil, une démarche que peut entreprendre l'enfant lui-même une fois majeur. C'est ce qu'est en train de faire Maguette Dio, il a 26 ans.
Ne pas avoir d'acte de naissance me pose beaucoup de problèmes. Par exemple, une fois j'ai travaillé comme journalier au port de Dakar pour une société qui faisait du thon et je n'ai pas pu avoir de contrat.
Voilà, sans état civil, pas de contrat légal, pas de droit de vote, pas de passeport, bref, des difficultés tout au long de la vie. Même votre mort ne peut pas être déclarée. Et pour les politiques publiques, ça veut dire qu'au niveau municipal comme national, il manque des données essentielles pour planifier sur les questions de santé ou d'éducation.
Les problèmes en cascade, hein, on comprend bien. Mais comment expliquer qu'il y ait encore tant d'enfants sans acte de naissance en 2016 au Sénégal ?
Alors il y a un manque d'informations, une méconnaissance des procédures, une distance aussi vis-à-vis de l'administration. Si vous regardez, Michael, une carte du Sénégal dans les zones reculées du sud et du centre du pays, moins d'un enfant sur deux est inscrit sur les registres d'état civil. Laetitia Bazzi est responsable du programme Protection de l'enfance à l'UNICEF.
Les populations sont éloignées des centres d'état civil, mais on a aussi également un problème de qualité, je dirais, de services d'état civil. Vous avez des ruptures de stock de registres ou d'extraits de naissance, ce qui fait qu'on va peut-être facturer le coût de la reproduction, de la photocopie d'un extrait. Vous avez aussi l'exigence, et ça je pense que c'est une contrainte majeure, c'est qu'on demande aux parents de produire des pièces d'identité pour pouvoir déclarer leur enfant à l'état civil. Alors qu'effectivement, dans d'autres pays, deux témoins justement se pallient à l'absence de pièces d'identité des parents. Et ça, c'est un facteur d'exclusion assez fort.
Le Sénégal a lancé un programme de modernisation de l'état civil. En attendant, des audiences foraines permettent régulièrement de régulariser des milliers d'enfants d'un coup. Autre stratégie de l'État et des ONG, coupler les campagnes de vaccination avec l'enregistrement des enfants non inscrits.
Amélie Tulé, en direct de Dakar. Merci beaucoup.
Et après le Sénégal, l'Iran, Michael, l'Iran où informer reste encore trop souvent un délit.
Un métier à haut risque hein, que celui de journaliste. Notre consoeur iranienne, Narges Mohammadi, en a fait la douloureuse expérience. Elle a été condamnée en appel avant-hier à 10 ans de prison pour réunion et complot contre la République islamiste, ainsi que pour propagande contre le régime. Bonsoir Alexandra Akoun.
Bonsoir Michael.
Alors Narges Mohammadi est également directrice du Centre de défense des droits humains, centre fondé en 2001 par l'avocate iranienne Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, exilée à Londres, et qui joue en quelque sorte hein, la porte-parole de la journaliste. Et vous venez précisément de la rencontrer pour nous de passage à Paris.
Oui, car avec l'aide de Reporters sans frontières, Shirin Ebadi tente depuis des mois d'alerter la communauté internationale sur le sort de Narges Mohammadi, qu'elle considère comme sa fille. Âgée de 44 ans, la journaliste a été condamnée à 6 ans de prison il y a quelques mois avec l'échec de son appel avant-hier. La voilà face au total à 16 ans de détention. En plus, Narges est très malade. Shirin Ebadi.
Elle est dans un état de santé très inquiétant. Pour autant, son moral est très bon. Elle est très forte. Et malgré toute la surveillance à laquelle elle est soumise, elle parvient à écrire, donc elle produit sans cesse, elle arrive à faire sortir ses textes de prison.
Et le cas de Narges Mohammadi, Alexandra, n'est évidemment pas unique, loin de là.
Et non, et Reporters sans frontières considère même l'Iran comme l'un des pays les plus répressifs envers les journalistes, malgré les promesses d'ouverture d'Hassan Rouhani, arrivé au pouvoir en 2013.
Le métier de journaliste est un des métiers les plus dangereux qui soient en Iran. Un grand nombre des détenus dans les prisons iraniennes sont là simplement parce qu'ils ont écrit. Le gouvernement iranien, M. Rouhani, M. Khamenei, essaye d'étouffer la société civile. La place de Narges et des défenseurs des droits de l'homme n'est pas la prison.
30 journalistes et citoyens journalistes sont actuellement emprisonnés en Iran, faisant du pays, selon RSF, l'une des 5 plus grandes prisons du monde pour les professionnels de l'information.
Alexandra Akoun, merci et merci à Massoum Elaïdji pour la traduction simultanée.
Rien à voir, Michael, mais absolument passionnante cette enquête de nos confrères de la BBC sur le repos et le bien-être.
Oui, enquête à grande échelle. Hein. Plus de 18 000 personnes sondées dans 134 pays, en partenariat avec un collectif d'experts, de scientifiques. Objectif, comprendre ce que repos signifie dans des cultures très différentes et chez des individus de tous âges, de toutes catégories sociales. Comment aiment-ils se reposer? Quelles sont les activités qui procurent selon eux le plus de repos? Et quels liens font-ils entre repos et bien-être? Une première analyse des résultats vient d'être mise en ligne sur le site de la BBC avant la totalité de l'étude courant 2017. Et déjà un enseignement, quel que soit le pays ou la culture d'origine, l'écrasante majorité des sondés affirme que pour être réellement reposé, le moyen le plus simple et le plus efficace est d'être seul.
J'en
tout
étais sûr.
Seul, tout seul, Nicolas. Une solitude choisie qui nous permet de nous écouter, davantage concentrer sur nos sensations physiques, nos émotions, nous retrouver enfin seul avec nos pensées. Et parmi toutes les activités pratiquées en solitaire, la grande gagnante est là, la lecture, pour plus de 60% des personnes interrogées, suivie par les promenades dans la nature, écouter de la musique. Et en quatrième position, ne rien faire du tout, absolument rien. Une non-activité, hélas, synonyme de paresse et donc culpabilisante, nous dit l'étude. Alors que tous sont d'accord, évidemment, sondés comme experts, la sensation de repos et le bien-être sont liés. Plus je me sens reposé et mieux je vais. Éloge de la paresse et de la solitude à méditer. Enfin, et ça pourrait aussi figurer dans cette étude de la BBC, devinez ce qui va se passer ce soir à Reykjavik, la capitale islandaise, entre 22h et 23h, heure locale.
Je n'en sais absolument rien, Michael.
Eh bien rien,
ah bah
nous
voilà,
reste.
Bah super.
Le noir, toutes les lumières de la ville vont s'éteindre et les habitants sont invités à faire de même chez eux. Plus de 9 sur 10 ont d'ailleurs l'intention de jouer le jeu, selon un sondage ce matin de la télé nationale islandaise. Pourquoi ? Simplement pour permettre à chacun d'admirer au mieux ce soir les aurores boréales. Que l'obscurité soit la plus complète et la pollution lumineuse minimale, demande la municipalité. Capitale la plus septentrionale du monde, Reykjavik est l'un des meilleurs points d'observation pour ce type de phénomène naturel. À lundi.
À lundi, Michael.
Hey, wake up. No.
Un jour dans le monde.
What?
Nicolas Demorand.
Oh my God!
Sur France Inter.
Il n'avait pas reparlé de David Bowie depuis sa mort l'année dernière. Le producteur historique du chanteur Tony Visconti était le week-end dernier à Hambourg. Il était là-bas pour l'occasion, président du prix Encore Award. Bonsoir Mathieu Culeron.
Bonsoir.
Et vous avez eu la chance, Mathieu, de pouvoir le rencontrer.
Oui, Tony Visconti qui s'est fait très très rare depuis la dernière sortie du disque de Bowie Black Star. Tony Visconti qui connaît bien Berlin puisqu'il y a fait 3 albums célèbres pour David Bowie, mais qui connaissait assez peu la ville d'Hambourg où je l'ai rencontré, la ville qui a forgé pourtant les Beatles au début des années 60, et c'est d'ailleurs grâce aux Beatles que Tony Visconti a voulu devenir producteur.
Je voulais passer plus de temps en studio, et c'est en fait en écoutant George Martin et les Beatles que j'ai voulu comprendre comment fabriquer cette magie.
Revolver, par exemple, a été un album important.
L'album Revolver a changé ma vie. Je vais vous raconter un petit secret et que désormais tout le monde va savoir. J'écoutais Revolver sous LSD. Bon, tout le monde faisait ça à l'époque. Je pouvais écouter des choses que je n'avais jamais écoutées auparavant chez d'autres artistes. Et lorsque l'effet du LSD s'est estompé et que j'ai réécouté Revolver, eh bien j'entendais toujours ces mêmes sons. Sergeant Pepper n'arrive pas au niveau de Revolver. Pour moi, ce disque, ce n'est que de la production de très haut niveau. Mais je faisais de la guitare classique, de la contrebasse, et j'ai fait des études d'arrangeur, d'orchestrateur, mais en même temps, j'aimais le rock'n'roll. Et en écoutant George Martin, j'avais trouvé mon chemin, et je me suis dit, voilà ce que je peux faire.
Tomorrow Never Knows, extrait de l'album Revolver des Beatles, le morceau qui a fait basculer la vie du producteur de Bowie, Mathieu.
Oui, Tony Visconti, qui, alors que nous étions en train de parler du prix qu'il était venu remettre à Hambourg, se met soudain à me parler de sa carrière avec David Bowie, un sujet qu'il fallait surtout ne pas aborder avant l'interview, c'est ce qu'on m'avait dit. Tony Visconti et David Bowie, une relation unique dans l'histoire de la musique.
J'ai commencé en 1968 avec lui, avec Space Odyssey.
J'ai commencé avec lui en 1968 avec Space Oddity et j'ai fait son dernier album Black Star. Entre ces deux-là, j'en ai fait 12 avec lui. C'est très rare qu'un producteur travaille autant de temps avec un même artiste. Il y a trois albums qui se détachent pour moi. Et j'aimerais qu'un jour on se souvienne de moi à travers cela. Le premier, c'est The Man Who Sold the World, Scary Monsters et Black Star. Je suis si fier de la production de ces albums, je les ai faits évidemment avec mon très cher ami David Bowie. Tout cela lui revient bien sûr, mais j'ai été très impliqué dans la fabrication de ces disques. Sur ces productions, David et moi avons travaillé comme des frères. Nous avons toujours été des amis, mais aussi de très bons collègues.
Say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is giving. Just pictures of Jeff goes and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands.
Voilà, morceau extrait de Scary Monsters, l'un des trois albums préférés de Tony et Visconti. Le troisième, c'est Black Star, Mathieu.
Oui, l'album Black Star est sorti un vendredi. David Bowie est mort le lundi suivant. C'est la première fois que Tony Visconti, qui a fait cet album avec Bowie, revient sur ce dernier disque depuis la mort du chanteur. Et quand il le fait, le grand producteur semble vraiment ému.
Black Star is a masterpiece.
Pour moi, Black Star est un chef-d'œuvre. On a fait des choses sur ce disque que l'on n'avait jamais faites auparavant, notamment en utilisant ce groupe incroyable de jazz. C'est la chose la plus intéressante que j'ai faite dans ma vie. Ça a pris du temps à faire, mais je n'avais qu'une envie à cette époque, me rendre en studio pour travailler sur cet album. Je trouve ça très dur de le réécouter, mais je l'ai tout de même réécouté plus de 10 fois depuis que David Bowie est mort. Et à chaque fois qu'il sort un vinyle, je dois faire des contrôles de la qualité du son, et à chaque fois que je l'écoute, je suis toujours très très ému. C'est très dur de n'écouter que la qualité du son. C'est un album magnifique et c'est probablement les plus belles voix que David Bowie ait jamais faites.
Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd.
Black Star, le chef-d'œuvre et dernier album de David Bowie. Témoignage exclusif de Tony Visconti, le producteur et ami de Bowie. Merci Mathieu Culeron. À noter qu'un très beau coffret Bowie vient de sortir, Mathieu, sur la période 74-76 avec un album inédit de...
Avec un album inédit de David Bowie,
oui,
mais en fait,
c'est
pas véritablement un album. Il y a des morceaux qu'on retrouve après dans d'autres albums, mais c'est un album qui a été écouté et qui est produit notamment par Tony Visconti.
Mathieu Culeron, merci. 18h55.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Une mobilisation en Iran pour sauver un lac.
Oui, un lac extraordinaire, ce lac Urmia, puisqu'il s'agit d'un lac salé. Et même, il y a encore quelques années, c'était le 5e lac salé le plus grand au monde par sa superficie. Alors, où se situe cette petite mer Noire, hein, à environ 600 km au nord-ouest de la capitale Téhéran. D'ailleurs, on y fait en Iran ce qu'on fait en Israël, hein, c'est-à-dire qu'on s'y baigne en flottant comme un petit bouchon. On s'y couvre de boue noire, parfaite pour la peau, c'est ce qu'ils disent. Bref, ce lac Urmia est une merveille à la fois géologique et une destination de week-end familial. Mais je ne serais pas ici à vous en parler façon Iran, terre de contraste, s'il y avait un problème. Et oui, le problème est très simple à décrire. Le lac Urmia se meurt en 20 ans. Sa superficie a été divisée par 10, passant de 5000 à 500 km2. Et en plus, à cause d'une algue microscopique qui prolifère en eau salée sous le soleil, je l'ai appris, eh bien fin août, le lac Urmia a pris une couleur rouge sang absolument spectaculaire. Le lac ne pouvait mieux comme exprimer
métaphoriquement, hein, cette détresse, c'est Urmia qu'on assassine.
Et j'imagine que cette catastrophe est largement due aux hommes.
Évidemment, Nicolas, comme toujours, c'est toujours la même histoire. Dans le cas du lac Urmia, c'est l'agriculture intensive et la soif des Iraniens qui ont eu raison de 90% de sa superficie. Plus de 50 barrages ont été construits au fil du temps sur les fleuves et les rivières qui alimentaient le lac en eau. En fait, ce qui se passe avec le lac Urmia est un grand classique, hein. Explosion démographique, donc stress hydrique dans un pays dont les ressources en eau sont comptées, et surtout reconversion de l'agriculture. En quelques années, l'Iran est passé d'une agriculture traditionnelle, elle, adaptée aux ressources naturelles, à une agriculture industrielle gourmande en eau et en intrants, c'est-à-dire en pesticides et en engrais modernes. C'est d'ailleurs un aspect qu'on connaît peu du régime des Mollahs, sa fascination pour le productivisme, une façon peut-être aussi de compenser les accusations d'arriération sociale par une adhésion sans réserve à une certaine modernité, entre guillemets, bien sûr, économique.
Et donc l'heure de la mobilisation a sonné là-bas en Iran.
Oui, et c'est l'info du moment. La société civile a commencé à se mobiliser pour sauver le lac Urmia. Une pétition circule sur Internet, c'est depuis quelques jours à peine, hein, qui a déjà recueilli plus de 60 000 signatures. Le but est d'en collecter 1 million et ce sera atteint très très vite. La pétition en question s'appelle « Je suis Urmia » sur le modèle de « Je suis Charlie », ce qui est déjà assez étonnant. Et elle a reçu le soutien de l'acteur iranien Reza Kanan, mais aussi celui de Leonardo DiCaprio, qui est devenu en quelques semaines un véritable héros en Iran, au point de forcer les autorités à le remercier et à l'inviter. Et c'est là où je voulais en venir. Parce qu'on pourrait évidemment se contenter de raconter la mobilisation citoyenne pour le lac Urmia, on aurait déjà une assez belle chronique. Mais or, comme souvent dans les sociétés autoritaires comme l'Iran, le diable subversif se cache dans les détails. En clair, les militants pour le sauvetage du lac Urmia ont réussi, et c'est pas peu de le dire, à internationaliser leur cause pour le plus grand déplaisir des mollahs qui doivent réagir vite. Pire encore, ils l'ont fait l'air de rien, ils ont l'air de rien créé un réseau de solidarité, le cauchemar pour un régime qui se méfie de sa jeunesse et aussi d'Internet. D'une certaine façon, les militants écolos iraniens ont reçu 5 sur 5 la leçon de la jeunesse turque d'Istanbul qui avait réussi à susciter des semaines de manifestations, 7 millions de personnes dans les rues de toute la Turquie tout de même, à partir du bête sauvetage d'un petit parc stambouliote. Vous vous souvenez, hein, c'était le parc Gezi, c'était en 2013. Le régime iranien a bien compris ce petit jeu de « je suis passé par ici, je repasserai par là ». Le président Rouhani a donc vite débloqué l'équivalent de 80 millions d'euros pour sauver le lac Urmia et donc éteindre le feu de la mobilisation qui couvait. Mais jusque quand? Eh bien, jusqu'à la prochaine fois.
Anthony Bélanger, merci. À 19h20, d'un mot, le téléphone sonne ce soir sur la réunionite. Un cadre français passe en moyenne 24 jours par an en réunion. 01 45 24 7000 pour toutes vos questions, vos témoignages, franceinter.fr et Twitter. Mot-clé, Telson.